RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, reportage aujourd'hui à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, où un centre d'hébergement d'urgence accueille depuis janvier 2017 400 personnes, des mères et des pères, qui ont fui leur pays avec leurs enfants pour demander l'asile en France. Et c'est pour ces jeunes que l'Éducation nationale a ouvert une école à l'intérieur du centre, un lieu de passage pour ces enfants le temps que la situation de leur famille se régularise et pour un jour intégrer une classe ordinaire. À l'école des enfants venus d'ailleurs. Grand reportage signé Carole Sauvage.
Donc là, il est 9h.
Je sonne. J'essaye de parcourir le centre pour pas oublier d'enfants et pour les faire se presser un petit peu. Il y en a certains qui sont au petit déjeuner. Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien.
Oui, vas-y, on t'attend là-bas. Et donc on va les chercher, même quelques fois dans les chambres. C'est-à-dire qu'on frappe. Puis, s'ils ne sont pas réveillés, on leur dit que l'école est obligatoire et qu'il faut qu'ils se lèvent. On sait qui a des rendez-vous médicaux, par exemple, et donc ceux-là, on ne les dérange pas, évidemment. Alors, je vais aller voir dans les yourtes.
Stéphane Parou est directeur de l'établissement. Chaque matin, lui et son équipe enseignante vont toquer aux chambres et aux yourtes du centre pour chercher les enfants qui sont en retard à l'école.
Bonjour.
Mais face aux parents, la langue peut parfois être un obstacle.
Hein?
Ouais, je comprends pas. Ah d'accord. Elle viendra demain. Il y a des nouveaux élèves et donc il faut qu'on les teste. Et donc on va les tester aujourd'hui. Allez, bonjour, voilà. Comment vas-tu?
Bonjour.
Allez, vas-y, dépêche-toi. Les autres, tes frères et sœurs, ils sont déjà tous là-bas? D'accord.
Que vous les testiez, ça veut dire quoi?
Tester leur niveau scolaire pour savoir dans quel groupe ils vont aller ensuite. Et donc on organise notamment s'ils ont été scolarisés antérieurement ou pas.
Voilà. Il y a quelques retardataires.
Ils cavalent dans le centre. On les reconnaît en fait grâce au sac vert.
Ils ont des nouveaux cartables.
Mais c'est des cartables, c'est un don. Et donc pour nous c'est assez pratique parce que ces cartables sont verts, on les voit de loin. Donc on voit très bien les élèves qui sont en train de cavaler et qui sont un peu en retard.
La cloche, les cartables verts, l'alphabet et les dessins collés au mur, on se croirait presque dans une école ordinaire. Sauf que l'on se trouve dans un centre d'accueil qui héberge des familles migrantes. Notre guide du jour, Stéphane Parou, est coordinateur au CASNAV, au centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivés et des enfants du voyage. Il est celui qui a piloté de A à Z la création de cet établissement scolaire unique en France.
On est dans une école donc qui est en préfabriqué, qui a été construite entre avril et mai l'année dernière. Et depuis, en fait, on a instauré 4 classes avec une salle des maîtres, des professeurs, un coin effectivement bibliothèque, une petite salle informatique. Et donc, quand on marche dans les couloirs, on entend des bruits de classe qu'on peut entendre dans toutes les écoles en France. Et là, on est très content, c'est-à-dire que cette école fonctionne exactement de la même manière. Et à côté de ça, la particularité, c'est qu'on a réparti les groupes classes d'une autre manière que dans l'éducation nationale, puisqu'on a créé 4 groupes. Un groupe pour les 6-7 ans, un groupe pour les 8-12 ans qui ont été bien scolarisés, un autre groupe pour les 8-12 ans non scolarisés antérieurement, et le dernier groupe, 13-17 ans, donc plutôt âge collège-lycée. Mais on n'a pas du tout fait attention, par exemple, à la séparation entre école élémentaire et collège. Et parce que ça tient aussi vraiment au public qu'on accueille ici.
Et pourquoi c'était important que l'école soit intégrée comme ça au centre?
Soit on crée une école à l'intérieur du centre, soit on mettait les élèves dans des classes ordinaires ou des UPE2A, des classes pour non-francophones, à l'extérieur, c'est-à-dire dans les villes d'Ivry ou de Vitry par exemple. Sauf qu'il y a plusieurs facteurs qui nous ont fait pencher pour cette solution-là, puisque les classes d'Ivry étaient surchargées, l'équipe n'aurait pas pu travailler ensemble, et en plus, le flux des élèves fait que, comme ils restent ici en moyenne un mois et demi, ça aurait été très difficile pour nous de gérer l'ensemble de ces paramètres. Donc c'était beaucoup plus simple de créer une école ici. Et puis après, il y a tout de suite une vie qui se crée. C'est plutôt, en fait, nous qui arrivons chez eux que le contraire. Et ça, c'est quand même très, très valorisant pour eux. Alors qu'on n'aurait pas eu cette atmosphère-là s'ils avaient été un peu disséminés dans Ivry ou Vitry.
Viens dans la classe. Je vais te le mettre dans la classe. Viens.
On va commencer. On se met
met sur le banc et là, Harry, on se met sur le banc et je vais venir vous appeler au fur et à mesure pour venir écrire votre nom.
Les enfants viennent en majorité d'Afghanistan, du Soudan, d'Irak ou de Syrie. Ils ont fui avec leurs parents, la guerre ou la famine. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils côtoient les bancs de l'école. Résultat, ils doivent tout apprendre, à commencer par parler le français, mais surtout à rester assis, à lever la main pour prendre la parole, à écrire sur une ligne ou tout simplement à tenir un crayon. Mais pour les élèves de Mélanie et Sné, ce n'est pas chose facile. Il n'est que 9h10 et ils sont déjà agités. Elle est institutrice et s'occupe des plus petits.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait Asma là ? Elle va t'asseoir, Asma. Elle écrit son prénom. Ça, c'est Asma. Elle s'appelle Asma. Ça, c'est son prénom. C'est quelle lettre ?
A.
A. S.
M. A.
D'accord. Amar. Et Amar, alors ? Tu le poses, le livre ? Amar, tu vas écouter ? On écoute et tu poses le livre et tu regardes. Il y a 5 lettres dans Amar. A-M-M-A-R. Ça, c'est Amar. Il est où le A ? Allez, fais-moi un beau A. Parce que là, tu l'écris un peu en arabe. On l'écrit en français ?
Après avoir écrit son prénom, puis la date, place à la leçon du jour. Apprendre à se dessiner. Les 5 élèves s'essayent à l'autoportrait sous le regard bienveillant de leur professeur.
Moi !
Moi ! Tu dessines tes cheveux aussi, mais c'est bien ça.
Oui.
Ça sert à quoi ?
En fait, on va travailler sur le portrait, et c'est un préambule.
D'accord.
Par rapport à ça, et puis c'est une représentation d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas du tout. Donc, et alors que ça se travaille à la maternelle.
Pourquoi ils n'ont pas, la représentation ?
Parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche de dessiner ce qu'ils voient dans la démarche du dessin, en fait, de la représentation.
Fini, j'ai fini.
Asma, par exemple, avant, elle se dessinait avec des oreilles d'ours et tout. Et là, c'est une vraie petite fille. Il est super ton bonhomme. C'est super, Asma.
Tu veux mettre des couleurs ? Ou sinon, ici, t'écris « Bonjour, moi, c'est Asma ».
C'est intéressant comme exercice de voir que demander à un enfant de se dessiner, ça, on apprend beaucoup sur leur représentation du monde, d'eux-mêmes, des choses.
Asma, les sourcils froncés, l'air appliqué, se débrouille comme une chef.
Alors, Amar, c'est plus difficile.
Ce qui est visiblement moins le cas d'Amar. Le jeune Syrien ne fait que gribouiller sa feuille en rouge.
C'est Amar ? C'est le petit chapeau rond rouge ?
Tu dessines Amar là ? T'essayes de dessiner Amar ? Avec les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les cheveux. Amar, je pense que c'est de l'ordre du traumatisme. C'est un enfant qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, je pense, et qui du coup est choqué. C'est pour ça que tout à l'heure, le portrait, je ne me suis pas arrêtée sur lui, j'ai pas insisté, parce que déjà d'être là, c'est compliqué, mais en plus, si on lui demande de faire des choses, déjà d'être là avec les autres, se sentir en sécurité, avec le temps, les choses vont se déverrouiller, je pense. L'éducation, en tout cas, c'est un moyen de montrer le chemin. Enfin, je crois qu'en latin, ça veut dire educare, ça veut dire mettre sur le chemin. Et les mettre sur le chemin d'une stabilité, les mettre sur le chemin de quelque chose d'un peu plus paisible.
Fini.
Ouais, c'est fini, Amar ? D'accord. De toute façon, on va aller en récréation, les enfants. Voilà. Si, les crayons, c'est là.
Merci.
On va dehors, Amar. Allez.
10h20, l'heure de la récréation. Asma et ses copains sortent corde à sauter et ballon de foot. L'école est pour eux avant tout un cocon où ils peuvent rire librement, créer des amitiés. Elle leur offre cette part d'insouciance qu'ils n'ont jamais eue. C'est ce que nous explique Stéphane Parou, le directeur de l'établissement.
L'école, là, c'est le moment le plus important peut-être de leur vie. Parce que c'est là où ils vont vraiment pouvoir regarder pour la première fois depuis des mois sereinement l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le temps de se poser, d'apprendre, de s'occuper d'eux, parce qu'ils sont souvent, comme sont eux qui parlent le mieux la langue du pays d'accueil, sont souvent eux qui traduisent, qui vont dans les réunions, dans les rencontres, dans les rendez-vous de préfecture, par exemple, pour traduire à leurs parents. Et nous, notre position est très claire, c'est de dire, non, c'est pas à vous de le faire, on va embaucher des traducteurs pour aller avec vos parents, mais vous êtes à votre position, vous gardez votre position d'enfant, qui grandit et qui a besoin pour s'épanouir de vivre pleinement son enfance et son adolescence.
Un jeune se met à l'écart lors de la récréation pour surfer sur Internet. Banoula vient d'Afghanistan, il a 16 ans et est arrivé au centre d'Ivry il y a 6 mois avec ses parents, ses trois petits frères et ses deux sœurs cadettes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a appris très vite le français, même si lui dit le contraire.
C'est un petit peu difficile pour moi parce que quand j'écris quelque chose, je lis l'autre chose. Et comme la chaise, l'ordinateur, la table, le crayon, là, l'eau. C'est un peu difficile pour moi, masculin et féminin. J'aime mon école, tous mes professeurs, mon directeur, mon père, il dit, tu as deux pères. Un, c'est moi, et l'autre, c'est ton professeur. Je vais trouver l'argent pour toi, mais ton professeur, il va te donner knowledge, comment on dit en français?
Connaissance.
Oui, connaissance. Oui.
Tu lui apprends le français ou...
Oui, moi, j'essayais toutes les nuits, pour une heure, je travaillais avec...
Et le fait que comme ça, que vous dormiez à 8 dans la même chambre, ça va?
Oui, ça va, parce que centre, c'est comme une famille. Mais c'est difficile pour moi, je ne peux pas parler avec quelqu'un. Et je n'ai pas mes amis aussi.
Oui. Tu as encore de la famille en Afghanistan?
Oui.
Ouais. Un jour, tu penses que tu retourneras là-bas?
Moi, je veux. Parce qu'Afghanistan, c'est mon pays. Afghanistan, c'est comme ma mère. Et Inch'Allah, je vais... I will serve my society. Oui.
Servir.
Oui, je vais servir. Oui.
Pour les enfants du centre, évoquer leur passé reste un exercice compliqué. Leur professeur s'y refuse d'ailleurs. L'enseignant Pavel Garcia nous explique pourquoi, tout en gardant un œil par la fenêtre sur la cour de récréation.
J'ai deux enfants qui sont suivis par un des psys, parce qu'ils entendent des bombes, concrètement. Ils ont encore des peurs, ils étaient enfermés pendant les bombardements, c'est des Libyens.
Dans ta classe en ce moment?
Oui.
Comment tu t'en es rendu compte?
C'est le père qui est venu me voir au début. Et c'est préférable, parce que dans les différentes pathologies ou traumatismes qu'il peut avoir... On ne sait jamais si ça peut prendre une façon violente, par exemple, vis-à-vis des autres, ou même vis-à-vis de l'élève lui-même. Tu ne sais pas. Et...
Oh, arrive, descends.
Elle monte sur le grillage, là.
Oui, en plus, elle a de l'expérience. On avait fait une piñata à la sortie des vacances. Et j'avais mis la corde accrochée. Je suis parti 2 minutes, je suis revenu, elle était plus là. Enfin, bref.
Et tu connais leur parcours
ou... Non.
Non,
je ne pose pas de questions. Je ne pose pas de questions à moins que ce soit nécessaire, que ce soit pour voir si ça bloque en termes administratifs, mais c'est un peu comme un classe d'accueil. Il ne faut pas trop poser de questions parce que tu ne sais pas ce que tu peux réveiller.
Les relations entre les parents et les professeurs, elles sont présentes?
Je dirais qu'on les voit très peu, les parents, mis à part certains cas. Ça a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un premier point de repos ici. Rien qu'imaginer ce que ça peut être que de faire un parcours où tu dois tout le temps te cacher de tout le monde, de la police, enfin bref. Je suppose qu'avoir un enfant ou un ado dans ces conditions-là, ça doit être une crise permanente, quoi, de dire c'est sous ma responsabilité, il ne faut pas qu'il meure. Donc ils arrivent ici, ils trouvent un lieu, un premier lieu sécurisé où les enfants ne peuvent pas sortir. Ouais. Là-dessus, la confiance est aveugle.
Une confiance que Stéphane Parou essaye d'instaurer dès leur arrivée dans le centre. C'est pourquoi il attend dans la bibliothèque les parents des nouveaux élèves pour leur présenter l'école.
On réalise chaque semaine une rencontre avec eux. Je leur explique le fonctionnement de l'école. Les ressemblances avec les autres écoles de la République française et les règles. Notamment, par exemple, le port du voile, donc la laïcité, le port des vêtements. Par exemple, on ne vient pas à l'école en chaussons, alors qu'ils habitent juste à côté, c'est leur lieu d'habitation, mais on leur dit qu'on n'accepte pas les élèves en chaussons comme on n'accepte pas les élèves avec des casquettes. On leur explique, bien sûr, on répond à toutes leurs questions. Et ensuite, il y a un troisième temps où, dès qu'il y a un problème, on leur explique bien qu'ils doivent justifier s'il y a une absence ou un rendez-vous médical, un rendez-vous en préfecture, qu'ils viennent prévenir les profs pour que l'absence soit justifiée.
Et est-ce qu'il y a des incompréhensions parfois ?
Oui, il y a quelquefois, non pas des incompréhensions, mais des interrogations sur des points qui nous paraissent, nous, évidents. J'ai parlé du voile, par exemple, donc je leur explique qu'effectivement, on ne peut pas accepter les jeunes filles voilées, même si on comprend très très bien que c'est une tradition, que c'est une valorisation aussi de la jeune fille qui devient plutôt femme à ce moment-là. Mais c'est pas possible dans l'école de la République française, et comme cette école et comme les autres écoles, les jeunes filles vont devoir s'habituer à cette règle-là. J'ai eu par exemple deux pères une fois qui sont pas du tout opposés à cette règle-là, mais qui m'ont dit « Ah bon, c'est curieux, bon bah ma fille ira pas à l'école alors ». Alors j'ai dit, mais pourquoi elle ne viendra pas à l'école ? Parce que, voilà, elle est voilée, donc elle ne pourra pas venir à l'école, puisque vous me dites qu'elle ne doit pas avoir son voile et que ce n'est pas possible. Et alors je lui ai répondu très gentiment que si, elle viendra à l'école, parce que l'école est obligatoire, mais qu'on allait discuter avec elle pour qu'elle retire progressivement même son voile. Et le père m'a dit, ah bah si c'est comme ça, alors d'accord. Et donc, en fait, on voyait que c'était pas du tout une position ni religieuse dogmatique, par exemple, ni sectaire. C'était simplement qu'ils trouvaient ça très curieux de qu'on procède de cette manière-là.
Bonjour.
Bonjour.
Un jeune couple se présente avec quelques minutes de retard. Ils ont deux enfants et viennent tout juste d'arriver d'Arabie Saoudite.
How many children do you have?
Dans un anglais approximatif, Stéphane Parou leur explique comment fonctionne l'établissement. Seule leur fille, Mariam, qui a 7 ans, pourra être scolarisée. Son petit frère, lui, n'a pas encore 6 ans, l'âge minimum, pour entrer dans cette école.
Comment tu dis ? Bonjour.
Bonjour.
Ça va ? Et on dit, oui.
Ça va. Stéphane Parou pose des questions simples à Mariam pour évaluer son niveau de français.
D'accord. Très bien, on recommence. Bonjour. Ça va ?
Ça va.
Oui, ça va.
Oui.
Alsa, oui.
Non. Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Mariam.
Les liens parents-enfants sont souvent abîmés, ce qui est parfaitement compréhensible pour Juan Bogino, le psychothérapeute de l'établissement. Il vient le mardi après-midi, une fois par mois, pour rencontrer les professeurs et discuter des cas difficiles dans leur classe. Les échanges étant confidentiels, nous n'avons pas assisté à cette réunion, mais Juan Bogino organise aussi chaque semaine des thérapies collectives entre père, mère et enfant, avec pour objectif principal de recréer un dialogue au sein des familles.
Dans le sens que les adultes et les enfants protecteurs, pas tout le temps. Ils se sont vus agressés par les adultes. Donc toutes ces places que nous considérons comme établies sont complètement bouleversées. On peut le voir dans les rapports à l'école. Dans les rapports aux professeurs. Est-ce qu'il y a une loi ? Ou est-ce que la loi n'existe plus pour eux ? Pourquoi apprendre ? Pourquoi continuer à vivre, par exemple ? Et ça, sont des questions qui apparaissent, et elles sont liées à ces parcours redoutables, des traumatiques. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'entre eux ont été persécutés dans leur pays d'origine aussi.
Croire que ces élèves grandissent plus vite que la moyenne, sous prétexte des épreuves qu'ils ont traversées, est une erreur pour le psychothérapeute. Ce sont avant tout des enfants.
Ils ont grandi très vite, trop vite, mais pas partout. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de leur vie qui ont mûri, parce qu'ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues à leur âge. Ils ont traversé des situations qui n'étaient pas prévues à traverser. Mais ils restent quand même très fragiles. Donc il ne faut pas confondre cette hypermaturité avec une maturité réelle. Il y a une image qui est celle d'un fruit. Un fruit, quand vous tapez dessus, il tombe, on tape. Cette partie-là mûrit beaucoup plus vite. Mais le fruit, il pourrit. Donc c'est cette idée qu'on peut avoir des aspects de sa vie qui mûrit trop vite, mais ce n'est pas pour ça que c'est harmonieux. Ils sont d'une manière disharmoniques. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ce n'est pas une maturité, c'est une manière de survivre face à des situations qu'ils comprennent parfois pas très bien. Donc toute l'histoire, c'est de les qui reviennent à leur place d'enfant. Et c'est probablement ce qui se passe ici. C'est les ramener à vivre à nouveau en tant qu'enfant.
Depuis son ouverture en janvier 2017, l'école a offert un cadre de vie à plus de 300 enfants en attendant qu'ils soient intégrés dans une classe plus ordinaire. À l'école des enfants venus d'ailleurs, un grand reportage de Carole Sauvage, réalisation Pierre Chaffanjou.